C'est curieux la mémoire, vous savez. Il y a des trucs qui restent étonnamment précis, on ne sait pas pourquoi, et d'autres qui disparaissent. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai 87 ans, je vais claquer un de ces jours. Non, mais c'est vrai, je suis à la fin de ma vie. Mais peu importe. Bon, moi, je n'ai pas honte d'avoir vécu. Hein. J'ai bien vécu. J'ai bien vécu, non, pas au sens trivial. J'ai beaucoup vécu. Parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec passion. Je suis un type qui ne peut vivre que dans la passion. C'est vrai qu'en France, on a bien vécu. Hein. On a bien vécu. Mais les Trente Glorieuses, moi je les ai vécues, mais alors à plein pot. On vivait bien, on avait confiance. Une confiance absolument sans limite dans ce qu'on appelait alors le progrès technique. Le progrès. Si vous permettez, je reviens.
Vas-y.
J'ai parlé de ma poltronnerie. Pendant la guerre, ne pas m'être engagé, pas avoir fait de résistance, etc. Je pense que c'est mes racines paysannes, ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vis. Les paysans n'aiment pas faire la guerre. Il n'y en a plus, hein. Entendons-nous bien. Pour moi, il n'y a plus de paysans en France.
Ah bon?
Ah non, c'est fini.
Il y a quoi?
Il y a des producteurs de vin, de poules, d'œufs, de blé, de ce que vous voudrez. Il y a des producteurs. Ils se définissent comme ça. Ils cherchent même à ce qu'on les prenne pour des industriels. Je ne dis pas que c'est méprisable, mais ça n'a plus rien à voir avec le monde paysan que j'ai connu, moi. Plus rien à voir, rien du tout. Où c'était le règne de l'autosuffisance. Chaque famille faisait son vin, faisait son blé, faisait ses pommes de terre. Moi, je sais que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça.
On vendait le surplus, non, c'était... Enfin, fallait bien un petit peu de monnaie, quand même.
Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'argent qui circulait. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup. Je sais que chez mes grands-parents, il n'y en avait pas. Hein. Mais on mangeait à notre faim toute l'année. Et on se nourrissait sur le travail de mon grand-père, sur le jardin. Non mais, c'est fini, c'est
Sauf
fini.
Sauf exception, hein. Ça n'existe plus. Ça.
C'est fini, oui. C'est fini.
Faut-il être nostalgique, je ne sais pas.
Non, moi je ne suis pas nostalgique, mais je constate, je tire un trait. Je dis. Et je pense que, bon, c'est peut-être de la vanité de ma part, même sans doute de la vanité, mais je me sens aujourd'hui, paradoxalement, plus paysan, alors assurément que je ne l'ai jamais été. Je crois avoir ce rapport maintenant avec la nature que je n'ai, au fond, jamais eu. Moi, le maïs hybride, les pesticides, ça ne me faisait pas peur de les vulgariser. Hein. Maintenant, quand je vois une chose qui me rend malade, c'est de voir les chalutiers déverser leur filet entier de poisson et foutre de la glace dessus, quand je vois la vie foutre le camp comme ça, quand je vois les ravages qu'on fait dans les mers, et quand je pense qu'on nous... rebat les oreilles avec les sushis et autres saloperies. Quand je vois les Japonais qui ont encore le droit de tuer je ne sais combien de baleines par an, soi-disant pour des raisons scientifiques, alors que ça les bouffait, des gens qui coupent les ailerons de requins pour les manger. Mais ça me... Vous me parliez d'indignation. Eh bien là, je peux vous dire que ce n'est pas de l'indignation, c'est bien pire. C'est de la révolte. Et la révolte, et ça me rend malheureux. Je suis malheureux de ça. Parce que ça, c'est vraiment la vie qui fout le camp. La mer qu'on est en train de vider, c'est la vie qui s'en va. Et tout ça, pourquoi? Toujours la même chose, c'est le profit. C'est le besoin d'argent, c'est l'argent. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Je crois finalement que je vais vous envoyer mon texte. Parce que sur l'attente pendant l'occupation, j'ai écrit des pages que je crois assez fortes.
L'attente?
L'attente, oui. Cette conviction que la guerre ne finirait jamais.
C'est passionnant dans ce sens qu'on se pose tous la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais
fonctionné?
Comment peut-on avoir un peu de recul pour comprendre l'histoire dans laquelle on est embarqué?
La grande question, c'est ce que vous avez dit, à savoir, qu'est-ce que j'aurais fait ou qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et moi, je peux témoigner du fait que j'ai été bouleversé, c'est pas assez fort. J'ai été traumatisé par le retour des déportés, parce que j'avais jamais cru à ça. Je n'en savais rien. Pourtant, j'ai vu des déportés partir en déportation. Mais le poids de la propagande était tel que, bon, c'est ce que j'ai écrit, hein, je le dis bien crûment. J'ai dit, j'étais pion à Compiègne à ce moment-là. Et à Compiègne, il y avait le camp de regroupement de Royal Lieu qui était aux portes de la ville. Et un jour, j'ai vu passer un convoi de prisonniers qu'on emmenait à la gare de Compiègne, d'où ils partiraient en Allemagne et de là, on ne sait pas. Ma réaction en les voyant passer, je me suis dit, bon, ben, s'ils sont là, c'est qu'ils ont fait des conneries.
D'accord.
Voilà, voilà à quel point d'aliénation on peut arriver. Je n'ai jamais voté pour De Gaulle, pas une seule fois. J'en suis pas plus fier que ça aujourd'hui. Mais j'ai lu beaucoup de choses sur lui. Ça a quand même été un sacré visionnaire. À quel point un homme peut incarner l'avenir?
Il y a quand même dans la vie publique de De Gaulle, il y a quand même une question qui se pose, de mon point de vue. C'est tout simplement son accession au pouvoir en 1958.
Ah non, mais ça, c'est du tripatouillage.
Ah bah d'accord, ok.
Ah non, non.
D'accord.
Ah non, non, là, j'ai lu des choses là-dessus aussi. C'est pas glorieux, hein. Il a toujours été convaincu qu'il était destiné pour être un sauveur. En 58, il est parti de cette idée-là. Alors, puis il avait des affidés, type Soustelle et autres. Michel Debré.
Michou.
Ouais, Michou la colère, oui. Moi, à l'époque, je militais politiquement plus que maintenant. Bon, autant dire que j'étais pratiquement communiste. Et donc, comment dirais-je, je comparais ces gens-là à des gens, Debré notamment, qui, ayant une voiture, tapent dessus un coup de marteau jusqu'à ce qu'elle ne marche plus pour dire « Vous voyez, c'était pas une bonne voiture ». Debré, c'est ça qu'il a fait. À dire vrai, je n'ai rien choisi dans ma vie. Je n'ai pas choisi mon nom, je n'ai pas choisi le jour ni l'heure où je suis né, je n'ai pas choisi le lieu où je suis né. Je n'ai rien choisi. Je n'ai rien choisi. La vie est arrivée comme ça. Elle s'est faite. Si j'ai choisi des choses quand même, enfin, pour pas que j'exagère. Mais enfin, c'est vrai que je n'ai pas. Comment j'allais dire, que je n'ai pas choisi grand-chose. Par contre, la particularité de ma vie, telle que je la vois, parce qu'en réalité, je ne vais pas vous cacher tout de suite, même si ça paraît très vaniteux, par vous dire que, sur le tard, je me suis retrouvé fasciné, je crois que c'est le mot, par la vie que j'ai eue. Bon, alors pourquoi? J'ai cherché à savoir pourquoi. Et je me suis rendu compte, c'est maintenant que je m'en rends bien compte, surtout d'autant que l'écriture m'aide beaucoup. Dans l'écriture, il faut être précis. Puis il faut chercher, il faut un peu se creuser les méninges. Il faut dire pourquoi. Et donc, je me suis aperçu que finalement, je suis né en 1925, mais j'ai traversé pratiquement 4 guerres. Quand j'étais gamin, moi je suis originaire, vous êtes de la Mayenne, moi je suis de Loir-et-Cher. J'ai eu une enfance villageoise, avec tout ce que ça comportait de positif et de négatif. Négatif parce que on était regardé, écouté, espionné par tout le monde. On ne s'appartenait pas. La vie de village, c'était une oppression quasiment permanente. Donc, je vous dis que j'ai connu quatre guerres parce que, bon, la guerre de 14, ça va de soi. Mon père avait fait la guerre, mon oncle, celui dont je porte le nom, a été tué en 14, et puis encore dans les années 30, il y avait toutes les commémorations, il y avait les récits d'anciens combattants, il y avait tout ça. On baignait là-dedans. Moi, je faisais la guerre dans le jardin où j'étais élevé. Je m'étais fabriqué, je crois, parce que je suis tellement maladroit de mes mains, mais une espèce de mitrailleuse en bois. Ma grand-mère, qui est la personne qui m'a élevé, puisque j'ai perdu ma mère très jeune et que mon père ne s'est pratiquement jamais occupé de moi, ma grand-mère m'avait taillé une culotte, vous savez, on portait des culottes courtes, elle, dans un pantalon bleu horizon qu'un sous-officier lui avait donné. Alors cette culotte, c'est le tissu bleu horizon, je ne sais pas si vous, on n'a jamais eu l'occasion d'en voir ni d'en toucher, c'est extrêmement rêche. Et ça m'irritait les cuisses, cette saloperie. Mais ça a fait que je m'en souviens. La guerre de 70, je la connais. Je la connais. Elle m'a intrigué dès mon enfance, d'autant, oui. D'autant qu'il y avait, chez le boucher du village, un sabre de Hulan qui avait été ramassé après la bataille par le père de ce boucher, qui avait à l'époque déjà plus de 70 ans. Et donc, voilà. Aucun autre élément matériel, personne ne se souvenait de rien. Personne ne parlait de la guerre de 70, sauf au cimetière, il y avait un tombeau avec une dalle dont je soupçonnais, mais j'ai eu confirmation bien après, que c'était la tombe d'un soldat prussien, d'un Uhlan, il y avait son nom d'ailleurs. Et moi, gamin, je dansais sur sa tombe, je trépignais, voilà. Voilà pour la guerre de 70. Vous savez, une chose qui me frappe maintenant, c'est le peu d'écart qu'il y a entre ces trois guerres. Vous savez combien il y a entre 14 et la guerre de 40? Il y a 22 ans. C'est trois fois rien. Entre 70 et 14, il y a combien? 34 ans. Donc, vraiment, j'ose dire... Alors bon, je continue mon propos. Je vous ai dit quatre guerres. Peut-être que j'en mets une de trop, d'ailleurs. Trois, à coup sûr, parce que la guerre de 40 nous a pété au nez. Ensuite, il y a eu l'occupation. Donc j'ai vécu tout ça. Ce qui fait que quand je me retourne sur mon passé, qui, comme je vous l'ai dit, me fascine un peu, je me rends compte que je suis un enfant de l'histoire. Mais c'est vraiment les guerres, et à travers, il n'y a pas eu que les guerres, il y a eu bien d'autres choses. Il y a eu la guerre d'Espagne, il y a eu le Front populaire, l'occupation. Est-ce qu'on peut appeler ça une guerre? Pas franchement pour les Français, je ne crois pas. Vous me direz qu'il y a eu un certain nombre de résistants. C'est vrai. Et ceux-là, il ne faut pas les oublier, mais on en parle beaucoup. Et si vous voulez mon avis, on n'en parle pas très bien et on en parle trop. Je vous vois tiquer. On a eu tendance, ça c'est le travail du général de Gaulle, on a eu tendance après 40 à gommer, je dirais, la responsabilité de ceux qui n'ont pas fait de résistance. C'était l'écrasante majorité. Et les résistants, c'était la grande, grande minorité où j'en étais.
Vous en étiez à la perception,
oui,
de la résistance et sa réalité.
Bon, je n'en ai pas fait. Je pourrais en avoir honte, mais comme je n'en ai pas fait, je ne vais pas non plus me mettre en valeur maintenant en disant « moi, je n'ai pas fait de résistance ». Je n'en ai pas fait parce que, je ne sais pas. Les Allemands vont gagner la guerre, ça ne fait pas de doute. On a vécu là-dedans pendant 4 ans. C'est long, 4 ans. Vous savez, quand on est gamin, moi j'étais adolescent, j'avais 15 ans en 40. Vous savez que on avait bien le sentiment de bousiller notre adolescence, qu'on n'en aurait pas.
Déjà, il y avait une claire conscience.
Oh oui, on le sentait bien. On ne pouvait pas danser, on ne pouvait rien faire. Tout était interdit. Tout était interdit. Finalement, on attendait la fin de la guerre. On était comme les héros de Beckett. On attendait. J'ai passé 4 ans à attendre. L'occupation, je l'ai vue, bien entendu. J'en ai même un peu souffert, surtout de la faim. J'étais lycéen, on n'avait pas beaucoup à manger. Chaque dimanche, je ramenais de chez mes parents une petite demi-livre de beurre et un peu de sucre, c'était tout.
C'était quoi cette réalité de ne pas avoir à manger, ou pas assez à manger? C'était concrètement, c'était quoi?
Alors, je vais vous le dire, parce que j'en ai un souvenir très précis. Nous avions par jour 3 tartines de pain à manger. Ça fait à peu près 150 grammes. On avait faim. Et j'ai connu la faim depuis le lycée, donc disons pas 40, mais 41, 42. J'ai connu ça jusqu'en 47.
Est-ce que ça veut dire que, tout simplement, vous vous réveillez le matin et la notion de « j'ai faim »
Ah oui, on était pressé d'aller manger. Ah, on était pressé d'aller au petit-déj. Et à midi, pareil, et le soir, pareil.
Voilà, donc c'était...
On n'était pas affamé, mais on avait toujours un peu faim. Parce que
toujours un peu faim.
Oui, voilà. Ben oui, on n'avait pas grand-chose.
Est-ce qu'il y avait des gros à l'époque?
Des gros? Non. Alors, vous avez fait des allusions au marché noir. Marché noir, non. Je n'en ai pas été témoin. Ça existait, bien entendu, on le savait tous. Mais moi, directement, non.
Pourquoi vous avez accepté d'être enregistré?
Ça me paraît naturel. Ça paraît naturel parce que je suis quelqu'un qui aime transmettre.
Donc c'était tout naturel de causer dans le poste?
Ah oui, non, mais ça me convient.
Ben, j'ai plus qu'à vous dire un immense merci.
Non, pas si grand que ça.
Si, mais monsieur. Non. Monsieur comment déjà? Monsieur Blanchemain.
Non, mais...
Antoine Blanchemain.
Oui. Né le 30 août 1925 sous le signe de la Vierge. La vie tient un peu de choses.
Merci, monsieur Blanchemain. Merci beaucoup. Merci infiniment.